Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux et CapScience, le centre de culture scientifique de Bordeaux que j'ai le plaisir de diriger. Nous accueillons aujourd'hui Leïla Véron et Guillaume Fondu. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres du mot ECHO. On va le faire chacun à votre tour. On commence par vous, Leïla Véron. Alors, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Par rapport à ce livre-là, c'était le fait d'avoir participé à des émissions humoristiques sur France Inter et me retrouver au cœur des enjeux sur lesquels je travaille, les enjeux qui lient langage et pouvoir et humour.
Si je vous dis C comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
L'idée selon laquelle la réussite d'une vie, ce serait, je dirais, la consommation. Je pense qu'on peut essayer ensemble de définir la réussite autrement.
Si je vous dis H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Je pense que ce sont tous les gens qui continuent à croire à leurs engagements, à leurs valeurs et qui prennent du temps et se mobilisent pour ça.
Et finalement, O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ?
Eh bien, qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour leurs engagements et leurs valeurs, qui viennent comme ici pour échanger ensemble et qui croient à la vertu de l'échange collectif. Vraiment, en plus, ça me donne beaucoup d'optimisme, donc merci d'être là.
Merci à vous. Guillaume Fondu, à votre tour. Même tarif, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a fondé votre engagement ?
Alors, en termes d'engagement aussi bien scientifique que, disons, politique pour la diète, je pense que c'est ma première participation en tant qu'étudiant à un conflit social assez long où j'ai pu expérimenter un peu ce que c'était qu'une parole intéressante entre des gens mobilisés sur une même question et qu'est-ce que la philosophie que j'étais en train d'étudier par ailleurs pouvait ajouter à ça.
C'est comme croyance ? Quelle est la croyance qui vous désespère ?
Je serais assez d'accord avec Laëlia. Je rajouterais peut-être dans un contexte plus précis qui est celui de notre actualité, le technosolutionnisme qui consiste à penser que tous les problèmes qui sont les nôtres actuellement vont se résoudre grâce à l'invention de quelques génies surdoués dans quelque part au fond de la Silicon Valley.
Et H comme humain, la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Je dirais comme Laëlia, pour n'avoir pas à choisir des personnalités précises, tous les militants, tous les gens engagés dans le monde associatif avec qui je peux interagir au quotidien.
Et O comme optimiste ? Vous n'avez pas le droit de dire tous les gens qui ont déjà eu.
Alors, ce sera un peu l'idée, mais c'est le fait que moi, j'ai eu la chance d'assister à des réunions, pareil, politiques, associatives, militantes, qui sont vraiment bien passées, où j'avais l'impression que le fait d'être ensemble et de réfléchir ensemble amenait vraiment quelque chose. Donc voilà, ça, je trouve que ça rend assez optimiste sur la capacité de l'humain à dire des choses intelligentes quand les conditions de la discussion sont réunies.
On est beaucoup sur le collectif et je vous en remercie. Merci de vous être
prêté à cet exercice. On a fait un livre ensemble déjà.
Voilà. Alors, pour compléter ce portrait chinois, Guillaume Fondu, vous êtes normalien, agrégé de philosophie et enseignant. Vous avez publié plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, notamment Découvrir Hegel. Alors, merci, car les béotiens comme moi ont vraiment besoin de vulgarisation philosophique et ça me nourrit énormément dès que j'en trouve. Leïla Véron, vous êtes maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans, après une thèse sur le trait d'esprit chez Balzac. Vous avez publié plusieurs ouvrages, toujours avec des co-autrices pour l'instant.
C'est visible. Et Guillaume maintenant.
Guillaume maintenant, un co-auteur. Comme Le français est à nous ou Trahir et se venger. Alors la majorité d'entre nous vous connaissent d'abord pour vos chroniques radiophoniques, précédemment chez France Inter et actuellement sur Radio Nova, notamment avec l'équipe de La Dernière qui cartonne d'ailleurs, vu les derniers chiffres publiés la semaine dernière. Vous publiez ensemble aux éditions de La Découverte T'es pas sérieuse, entre guillemets.
T'es sérieuse.
T'es sérieuse, pardon.
Mais c'est pas grave. Ça. Oui.
Non, mais je l'ai lu, hein, par contre.
J'ai rien dit, moi. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
T'es sérieuse, entre guillemets, avec comme sous-titre Problème politique de l'ironie, au pluriel d'ailleurs, parce qu'on va en voir tout un paquet. Et c'est. Alors, moi, je souligne que CapScience a un président qui est Didier Pourcury, qui lui avait fait un livre sur l'ironie, qui s'intitulait « En finir avec l'ironie, point d'interrogation, éloge d'un mal français », où lui, son travail était plutôt un éloge. Il offrait un espèce de mode d'emploi de l'esprit léger, avec l'ironie comme meilleur antidote possible, à tous les interdits et toutes les doxas. Mais votre approche, vous, elle est différente, puisqu'elle croise vos travaux de recherche respectifs, pour vous, Leïla Véron, et pour vous, votre histoire personnelle. Vous l'avez dit, au sein de, historiquement, l'équipe de Charline Vandenacker et de Guillaume Maurice sur France Inter, on se souvient d'un d'un trait d'ironie basé sur une sombre histoire de prépuce de Netanyahou, enfin voilà, qui avait conduit à l'éviction d'une partie de l'équipe qui se retrouve maintenant sur Nova. Alors commençons par comprendre de quoi on parle. Alors pouvez-vous tenter une définition ou une explication du concept d'ironie, juste pour commencer par ça, et nous dire pourquoi c'est souvent Socrate qui est mobilisé.
Alors pour donner une définition de l'ironie et pour expliquer pourquoi on a voulu travailler sur ça plutôt que sur d'autres manifestations de l'humour politique, c'est le fait que déjà, il y a beaucoup de définitions de l'ironie qui vont se centrer sur la distinction humour-ironie. Et instinctivement, on sent une différence qui serait plutôt le fait que l'ironie serait plutôt plus piquante, voire plus méchante, plus à viser une cible, et l'humour serait moins dans ce sens-là. Mais c'est une définition surtout un peu morale, et finalement, beaucoup de livres qui vont se poser cette question-là finissent par dire que ça va se chevaucher, qu'il y a une ironie humoresque, un humour ironique. Donc nous, on n'a pas voulu partir dans cette direction. On a voulu prendre vraiment l'ironie parce qu'elle peut se définir linguistiquement et que ça pose un problème politique. Linguistiquement, l'ironie, on dit souvent que c'est dire le contraire de ce qu'on pense. Par exemple, de dire « Ah, quel beau temps !» alors qu'il pleut des cordes. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. C'est souvent... c'est plutôt le fait de dire quelque chose tout en signifiant qu'on ne croit pas ou pas totalement à ce qu'on dit et que ce n'est pas vraiment notre parole. C'est pour ça qu'on le définit comme une mention critique. Souvent, c'est rapporter les propos de quelqu'un d'autre de manière plus ou moins critique. Et par exemple, ça va être le fait d'avoir des petites blagues sur des phrases d'hommes politiques. Par exemple, si je vous dis « Ah, où trouvez-vous donc toute cette énergie ?» Si vous avez la ref, voilà, certains l'ont, voilà, vous reconnaîtrez l'allusion au propos de Jordan Bardella. Là, je fais de l'ironie dans le sens que ma parole n'est pas un usage, c'est une mention et potentiellement une mention critique. En reprenant ces mots-là, je les critique. C'est ça l'ironie. Et pourquoi est-ce que ça peut tout de suite nous intéresser politiquement? C'est le fait, on a parlé des émissions, que dans une émission d'humoriste de gauche, vous entendrez beaucoup de discours de droite. Parce qu'ils vont être rapportés, ils vont être mentionnés de manière critique, bien sûr, pour s'en moquer, pour les dégonfler, mais ils vont être mentionnés. Et donc ça, c'est l'intérêt de l'ironie, c'est qu'on peut le définir linguistiquement par rapport à d'autres formes d'humour plus évanescentes, et que ça pose tout de suite des questions, un paradoxe. Comment ça se fait? Parce qu'on peut tous faire de l'ironie, on en fait tous plus ou moins dans notre vie de tous les jours, que c'est quelquefois plus séduisant, voire plus efficace, au lieu de dire ce qu'on pense, de ne pas dire ce qu'on pense, voire de dire l'inverse de ce qu'on pense. Ça paraît être quand même très risqué, et de fait, ça l'est, mais il y a quelque chose qui marche. Et c'est à la fois ce risque et cette séduction qu'on a voulu interroger. Pour Socrate, tu peux peut-être enchaîner, c'est toi le philosophe.
Oui, enfin, pour continuer sur le risque et la séduction, et parler un petit peu de toute la mythologie qui est autour de la notion d'ironie. Effectivement, on repart de la question du personnage de Socrate, puisque, et on va voir pourquoi, elle est contemporaine de ce qu'on considère être la naissance de la démocratie. Donc on est à Athènes, à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, et on a un personnage qui apparaît, qui est Socrate, qui est le personnage considéré comme l'idéal type du philosophe ironiste, dont l'activité consiste principalement à se promener dans la rue, à entendre des paroles qui véhiculent les normes dominantes de la société d'alors, et à essayer de les mettre en question en répétant, en trouvant des interlocuteurs, en répétant à peu près ce qu'ils sont en train de dire, mais en le répétant de telle manière que l'interlocuteur sente le problème de ce qu'il vient de dire, le problème logique, le problème moral, enfin tous les problèmes que peuvent poser sa propre parole. Et c'est comme ça que Socrate est connu pour finalement être celui qui parvient à faire en sorte que de nous rendre spectateurs ou spectatrices de notre propre parole, ce qui permet d'avoir un petit décalage par rapport à ce qu'on raconte et donc par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on pensait, ce qui va permettre de l'interroger d'un regard nouveau. Et souvent, on considère que cette mise à distance de la parole dominante qui véhicule les normes d'une société donnée est contemporaine de la notion de démocratie, puisque par définition, la démocratie consiste à ouvrir à la discussion, à mettre au débat les normes de la vie collective qui auparavant étaient considérées soit comme naturelles, soit comme absolument normales, soit comme de toute façon indiscutables. Et pour ça, pour les mettre à la discussion, il faut premièrement s'en séparer un minimum. Il ne faut plus qu'on adhère complètement aux normes de notre société. Et l'ironiste, et c'est le cas de Socrate, sert principalement à ça, encore une fois, nous décaler par rapport à nos propres paroles, par rapport à nos propres pensées, pour qu'on en devienne spectateur et qu'on puisse les interroger avec un regard un petit peu neuf, d'où la puissance de l'ironie et son caractère un peu mythique, puisque effectivement, la plupart du temps, on considère que l'ironie est ce qui permet de faire désadhérer les personnes à leur opinion, d'où le côté anti-doxa, etc.
Pour comprendre comment ironie et problème politique peuvent se rencontrer, je vais tendre l'auditoire en une seule phrase, mais vous allez nous expliquer en quoi cette phrase illustre la rencontre du politique et de l'ironie. Si je vous dis « je suis antisémite », pourquoi ça illustre, dans deux cas spécifiques, l'espèce de conflit entre justement cette attraction et ce risque pris par l'ironie?
Alors déjà, on ne sait pas forcément si vous êtes ironique quand vous dites ça.
Non, justement.
Donc il faut envoyer des gros signaux, sinon il va y avoir un problème.
Je tends la salle, là.
C'est ça. Oui, au fait, on part de cette phrase-là parce qu'elle a fait écho justement à une grosse polémique dans l'actualité. Si vous n'avez pas la référence, c'est Blanche Gardin qui avait dit lors d'un sketch avec Aymeric Lompré, lors d'un dispositif de soutien à Gaza, cette phrase « je suis antisémite », elle l'avait dit ironiquement. Et ça avait fait beaucoup polémique, beaucoup débat, aussi en lien avec d'autres phrases du sketch. Et d'ailleurs, ça illustre bien le fait que l'ironie n'est pas que antifrastique. Parce que quand elle disait ça, elle voulait bien sûr dire « je ne suis pas antisémite », mais elle voulait aussi critiquer tous les discours médiatiques qui, selon elle, allaient réduire la critique de l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc vous voyez, c'est toujours faire écho à d'autres paroles et critiquer les discours de l'autre. Donc l'ironie critique, c'est vraiment mentionner les discours des autres et les critiquer. Et ce qui nous a frappé, c'est que aussi cette phrase, elle a été dite ironiquement par quelqu'un de très différent, c'est le philosophe Alain Finkielkraut, qui lui-même avait été accusé d'antisémitisme, notamment lors de son soutien à Renaud Camus, qui lui-même avait été accusé d'antisémitisme, et avait fait une tribune ironique en disant, voilà, c'est vrai, le masque est tombé, je suis antisémite. Et conclut avec une blague, je cite de mémoire, hein, d'ailleurs, je porte d'horribles chaussettes blanches, malheur à moi. Et au fait, c'était assez vertigineux parce qu'on avait le cas d'une humoriste qui faisait de l'ironie à ce sujet, mais dans un contexte politique, un philosophe engagé politiquement qui faisait de l'ironie. Et les deux phrases n'ont pas du tout été prises de la même manière. Bon, bien sûr, parce que les locuteurs ne sont pas les mêmes. Hein. Alain Finkielkraut est juif, il est engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, etc. Mais ça, c'était assez frappant que, pour le coup, Finkielkraut, qui avait fait beaucoup de remarques explicites là-dessus, recours à l'ironie, et Blanche Gardin, ça a été un peu l'inverse. Sa phrase a tellement fait polémique que finalement, elle est revenue à des discours très explicites pour tenter de se justifier. Et dans les deux cas, même si les locuteurs et les situations sont très différentes, c'était une manière de fustiger les paroles des autres. Et dans les deux cas, c'était un jeu dangereux, risqué, même si les conséquences n'ont pas été les mêmes.
Alors, du coup, là, ça illustre bien cet exemple. C'est-à-dire que Blanche Gardin, qui est plutôt teintée à gauche, la majorité des chroniqueurs ironistes ont l'air plutôt d'afficher des idées de gauche, globalement, j'ai l'impression. Est-ce que c'est parce qu'ils sont eux-mêmes de gauche ou parce que l'ironie est plutôt de gauche? Est-ce qu'il y a une ironie de droite?
Alors, c'est un peu quelque chose qui revient. Alors, c'est une idée qui revient souvent que l'humour politique serait plutôt à gauche parce qu'en soi, l'humour serait contre le pouvoir et viserait à renverser des dominations. Et nous, c'est une idée qu'on conteste dans le livre. L'humour, il n'a pas d'essence en soi, ça dépend ce qu'on en fait. Et peut très bien être utilisé, les mêmes principes rhétoriques peuvent être utilisés par des camps opposés. Et typiquement sur l'ironie, actuellement, il y a CNews qui lance sa pastille humoristique. Il y a par exemple aussi les films à la rage de Laurent Firotte qui fonctionnent sur le même processus ironique, c'est-à-dire de mention critique, en reprenant ce qu'il identifie comme des discours de gauche et en les caricaturant. Donc non, je ne pense pas qu'il y a du tout, même si certains ont envie de le penser parce que ça donne de la noblesse aussi à leur métier, à leur entreprise, un côté intrinsèquement contre-pouvoir dans l'humour et l'ironie. Et d'ailleurs, c'est un peu le plus gros chapitre dans le livre où on essaye justement d'étudier quand est-ce que l'ironie peut être une arme pour renverser les dominations, quand est-ce qu'au contraire, elle peut renforcer les dominations. Et tout ça, en réalité, dépend de critères qui ne sont pas ceux de la parole elle-même, mais qui sont plutôt dans la situation, dans les rapports de domination, dans les ressources, les capitaux des locuteurs. tu voulais...
On va y venir sur les rapports de domination.
Peut-être j'ajouterais quelque chose, c'est que en fait, ça dépend aussi du champ dont on parle, parce que par exemple, dans le domaine littéraire, il est souvent considéré que l'ironie est plutôt quelque chose qui est à droite. Les grands écrivains ironistes, que ce soit les anciens, comme quelqu'un comme Gustave Flaubert, ou des contemporains comme Houellebecq, sont considérés comme à la fois des grands ironistes, et je pense que, alors pour Flaubert, c'est potentiellement compliqué, parce qu'il y a la distance historique, mais personne ne contesterait le fait que Houellebecq est quand même un écrivain assez marqué à droite. Donc voilà, ça dépend aussi, et on retrouve une ambivalence de l'ironie là-dessus, puisque ce sont aussi des écrivains qui considèrent que une partie des combats progressistes, entre guillemets, peut être moquée, peut faire l'objet d'un discours ironique. Et là, bah, comme disait Laëlia, tout dépend en fait de la parole dont on fait mention critique. Et si ça devient, comme chez Houellebecq, par exemple, la parole féministe qui est très souvent brocardée dans la plupart de ses romans, bah, en réalité, la perspective ironique, avec en plus une très grande dose de cynisme, mais ça peut-être qu'on y reviendra, devient, cette parole ironique devient quelque chose de, alors droite-gauche, je ne sais pas, mais en tout cas très conservateur.
D'accord. Alors, quand on est comme vous, maître de conférence, normalien, enseignant, on essaye toujours de s'appuyer sur un corpus universitaire solide. C'est un principe de base du travail. Mais alors, concernant l'ironie, on convoque souvent Jankolevitch. Mais vous dites que le corpus universitaire n'est pas très opérant pour le sujet que vous traitez. Pourquoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas étudié ou qu'il y a un biais de recherche ou un biais de travail ?
Je peux commencer pour la philo. En fait, effectivement, la plupart des livres, en tout cas de philosophie sur l'ironie, ont tendance à convoquer des auteurs qui sont un peu toujours les mêmes, dont Jankélévitch, dont Nietzsche également avant lui. Et ce qui nous gênait un petit peu, après Laëlia parlera de la bibliographie universitaire linguistique, mais en tout cas ce qui est un peu gênant potentiellement avec la dimension philosophique, c'est que très souvent on se retrouve avec des auteurs qui en réalité font une espèce de psychologie assez abstraite de l'ironie. C'est le cas du livre de Jankélévitch, qui est plein d'idées très intéressantes, mais qui passe un peu d'une idée à l'autre, et dans lequel on retrouve cette idée que l'ironie est principalement considérée comme un état d'esprit. Un état d'esprit qui a à voir avec une forme de ludisme, c'est-à-dire de considérer que la parole doit être avant tout un moyen de jouer avec ses interlocuteurs, avec les réalités, avec le langage lui-même. Et on trouve assez peu d'études, finalement, de ce qu'est véritablement cette ironie. Et on retombe sur des grands postulats qui sont les postulats habituels de l'ironie est libératrice, l'ironie est antidogmatique, l'ironie est associée à la figure du joueur, quelque chose de plaisant, etc. Mais, encore une fois, il n'y a pas d'études véritablement de ce qu'est l'ironie en ce contexte, en situation. Et donc, on se retrouve à prêter à l'ironie des vertus qui nous semblaient contestables selon les différentes situations dans lesquelles elle prenait lieu.
Oui, parce que j'ai parlé du fait que dans le monde médiatique, humoristique, les humoristes, et c'est aussi pour défendre leur travail, vont dire souvent que l'ironie est là pour renverser les dominations et lui prêter beaucoup de vertus. Alors, dans le monde universitaire, c'est pire. Le monde universitaire aime beaucoup l'ironie, peut-être parce que on la pratique, peut-être parce qu'on se croit ironique, bon, peut-être qu'on n'est pas, parce qu'on aime bien faire des jeux de mots ironiques en colloque. Mais en tout cas, très souvent, c'est effectivement parler d'ironie de manière abstraite pour dire l'ironie, c'est génial, c'est la créativité, c'est contre le totalitarisme, c'est la liberté, et ça reste très, très abstrait. Et notre but dans le livre n'est pas de donner tous les défauts du monde à l'ironie, mais de sortir de ces visions abstraites pour avoir une approche qu'on pourrait appeler sociolinguistique concrète et voir dans quel cas ce que peut faire l'ironie. Pour donner un exemple, par exemple, il y a un linguiste qui s'appelle Alain Berendonner qui disait, avait voilà, ses grandes emphases, sorties emphatiques sur l'ironie en disant, voilà, pour le citer à peu près, pour le paraphraser, que l'ironiste avait un peu tout pouvoir, était tout puissant parce qu'il pouvait toujours se moquer de celui qui le critiquait. Et ça, voilà, ayant vu par exemple les situations à Inter dont on parlait, ben, c'est oublier que l'ironie, certes, il peut toujours se moquer, hein, et c'est fatigant des fois les ironistes parce qu'ils peuvent toujours effectivement retourner votre parole contre vous et se moquer, mais ce sont aussi des salariés qui dépendent de moyens de production, de diffusion, et si les personnes qui ont la main sur le micro leur coupent, ben, ça ne fonctionne plus. Ce sont aussi des justiciables, on le voit, vous avez évoqué la plainte contre Guillaume Meurice, il y en a une actuellement contre Pierre-Emmanuel Barré. Donc, je pense qu'il fallait sortir de cette vision abstraite, toute puissante de l'ironie pour voir concrètement, encore une fois, qu'est-ce qu'elle peut, dans quelle situation, et ne pas oublier que quand on parle de langage et de pouvoir, ben, très souvent dans le domaine universitaire, c'est aussi parce que c'est notre métier, on a envie, et je le comprends, de prêter beaucoup de vertu, beaucoup de puissance au langage, mais en réalité, Il y a des éléments très matériels qui peuvent limiter cette puissance et ça nous a semblé plus honnête de aussi les souligner. Il y a plein de livres, on peut se faire plaisir en disant que justement l'ironie c'est génial parce que c'est la créativité renouvelée du langage. Et je comprends pourquoi on a besoin de se dire ça, pourquoi l'humour politique nous fait du bien, mais on avait envie de, voilà, de le considérer un peu honnêtement et pragmatiquement dans tout ce qu'il peut, mais aussi dans toutes ses limites.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le discours ironique s'appuie toujours sur une mention, une ref, on va dire, quoi. Alors, en étant toujours un bon mot en lien avec une mention, est-ce que le discours ironique n'a pas tendanciellement une vocation inefficace, puisqu'il ne propose rien, il s'appuie toujours sur quelque chose d'extérieur pour le critiquer, sans forcément proposer quoi que ce soit? Est-ce qu'il peut avoir une efficacité? Parce qu'autant on a compris qu'il était risqué, autant est-ce qu'il peut avoir une efficacité parce qu'en fait, il ne propose pas grand-chose.
La critique peut être aussi efficace. Mais c'est vrai, c'est toute l'ambiguïté de l'ironie, c'est qu'elle a un pouvoir critique qui est très fort. Ça peut être une manière vraiment de retourner certaines paroles, de montrer leurs limites, de les dégonfler un petit peu, et c'est là où elle peut faire du bien. Donc, elle peut être efficace dans la critique. La critique est une efficacité, mais effectivement, peut-être sa limite, c'est que il n'y a pas en contrepartie, forcément, automatiquement, quelque chose de positif, de proposé en contrepartie de la critique. Et la critique est importante, mais c'est une première étape. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il y a eu la critique?
Et j'ajouterais peut-être que même du point de vue de la critique, ça pose quelques soucis, puisque un des principes de l'ironie qu'on essaie de discuter dans le livre, c'est le fait que les normes de la critique ne sont jamais explicitées. C'est-à-dire que quand on fait une blague ironique, c'est-à-dire si on reprend l'idée de mention critique, la critique au nom, enfin les normes, pardon, au nom desquelles on fait la critique ne sont pas explicitées. C'est pour ça que l'ironie marche particulièrement bien dans des contextes où on est entouré de gens qui partagent les mêmes opinions, puisqu'il n'y a pas besoin d'expliciter les opinions en question, les normes, les valeurs, etc. Et peut très bien ne pas fonctionner du tout dans un contexte où, pour le coup, bah, l'auditoire ne partage pas non seulement les références, mais aussi les valeurs idéologiques qui permettent de comprendre pourquoi la mention est aussi une critique. Ce qui, du coup, bah, rend même potentiellement parfois la critique inopérante, sauf, encore une fois, dans un cadre de déjà converti, ce qui nous pousse à dire que l'ironie est très puissante pour entretenir une communauté de valeurs, une communauté morale, mais peine parfois à élargir la communauté en question, puisque par définition, on garde implicite les racines motrices de la critique.
Mais vous soulignez aussi que l'ironie peut avoir une vertu pédagogique, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que toute seule, elle ne se suffit pas pour être pédagogique.
Alors, toute seule, le débat qu'on prend, c'est peut-être là, Elia précisera, mais ce qui nous semblait intéressant, c'était plutôt le dispositif énonciatif qui lui permet de jouer ce rôle-là. C'est-à-dire qui parle à qui et pourquoi. On oppose un petit peu deux manières différentes de faire de l'ironie. La première ironie, qui est l'ironie socratique historique, même si parfois c'est pas exactement comme ça, c'est de considérer que l'interlocuteur qu'on a face à nous, donc la cible de l'ironie, est en même temps la personne qu'on désire accompagner sur un itinéraire pédagogique. Pardon. Donc on essaye de faire en sorte que l'interlocuteur qu'on a face à nous se rende compte de la bêtise qu'il vient de dire pour qu'on essaye tous les deux de dépasser ça. C'est quelque chose qui peut arriver, qui peut nous arriver aussi bien en tant qu'ironiste qu'en tant que cible de l'ironie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des contextes pédagogiques très concrets, de l'enseignement, etc. Donc il y a ça d'un côté. Et de l'autre, parfois on retrouve, notamment chez certains comiques potentiellement, un syndrome qui est plutôt un dispositif énonciatif qui est plutôt celui du dîner de cons, pour le dire vite. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui dit n'importe quoi et on fait de l'ironie, non pas pour la convaincre que sa parole c'est du n'importe quoi, mais pour rire avec d'autres personnes convaincues de la cible en question. Et donc on a une forme de mise en spectacle du dispositif ironique qui le rend là pour le coup inopérant, puisque en réalité quand on se rend compte qu'on a été la cible de moquerie, c'est pas nécessairement un bon moyen d'amorcer un itinéraire pédagogique. On a plutôt tendance à se crisper, à se buter sur ses opinions et à vouloir tout simplement soit quitter la salle, soit envoyer bref.
Mais sur le fait que l'ironie peut être pédagogique, oui, par exemple, ça peut se faire en contexte scolaire, même s'il faut être prudent, sur le fait de répéter, par exemple, quelque chose qui semble avoir été dit trop vite pour montrer un peu l'absurdité. C'est là aussi, on la croise avec la parole politique. Quand la parole militante veut convaincre, l'ironie pédagogique peut aider à ça. Et pour expliciter l'allusion qu'a fait Guillaume, c'est les pratiques d'un autre Guillaume Meurice, quand Guillaume Meurice faisait ses micro-trottoirs. Je ne sais pas à quel point vous les connaissez, mais c'est le fait d'interviewer des gens dans la rue, et très souvent c'est pour leur faire dire ou découper leurs énormités et rire de leurs énormités. Et c'est intéressant parce que ces chroniques peuvent s'interpréter de deux manières. Soit c'est vraiment le syndrome dîner de con, on prend juste quelqu'un qui dit des bêtises et on le pousse à ça, et aussi on fait un montage pour que ce soit sur tout ça, et on rit de lui avec les autres, avec les chroniqueurs. Alors là, l'autre est juste une cible, et l'ironie n'a pas vraiment de valeur pédagogique, c'est plutôt juste pour avoir une communauté soudée contre une cible. Soit, mais ça va dépendre de notre attitude, est-ce qu'on va considérer l'autre juste comme une cible, ou est-ce qu'on va se dire... Ah, est-ce que moi, j'aurais pas pu faire la même erreur ? C'est de la même bêtise un peu. Est-ce que moi, quelquefois aussi, je parle pas trop vite ? C'est ce que disait Guillaume Meurice, que lui aussi, si on lui mettait un micro sous le nez quand il achetait ses poireaux le matin qui n'était pas réveillé, il dirait sans doute une bêtise. Donc, comment est-ce qu'on considère l'autre qui dit des bêtises ? Est-ce qu'on le voit juste comme un idiot ? Ou est-ce qu'on peut pas un peu se reconnaître dans sa parole en se disant, mais est-ce que ça m'est pas déjà arrivé, moi aussi, qu'on me demande, vous aimez beaucoup telle personnalité politique, que je dise oui, qu'on me dise citez-moi son programme et que je sois, j'ai pas d'idée. Donc, voilà, tout va dépendre de comment on va se situer. Est-ce que l'autre est juste une cible dont on rit ? Ou est-ce que, si on se reconnaît un peu dedans, ça ne peut pas nous-mêmes nous remettre un peu en question ? Et là, ça peut avoir une valeur pédagogique. On n'a quelquefois pas le même rire sur la même situation. Et quelquefois, on peut entendre deux fois aussi une chronique et se projeter plus ou moins dans la place des rieurs ou de celui dont on rit.
Avec cette idée aussi que l'ironie, si elle veut être pédagogique ou produire quelque chose, doit prendre en compte la parole de l'autre et le temps. C'est-à-dire que ça ne se suffit pas en soi, si j'ai bien lu, bien compris ce que vous dites.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on dépasse ce moment d'ironie pour aller chercher quelque chose après. On ne peut pas s'arrêter à l'ironie qui, du coup, si elle s'arrête là, ne prend ni la parole en compte, ni une trajectoire pédagogique.
Tout à fait. C'est vraiment un des points les plus importants, selon nous. C'est le fait que l'ironie peut être très forte à tout point de vue, en termes d'accroche, en termes de début, mais que pour construire quelque chose, que ce soit pédagogique ou autre, politique ou autre, il faut un itinéraire qui va dépasser ce moment d'ironie. Alors ça marche très bien dans le contexte pédagogique socratique. Socrate ne fait pas que répéter ironiquement les propos de ses interlocuteurs. Et même dans les émissions humoristiques, pour reprendre des exemples contemporains, très souvent, elles veulent créer un équilibre entre ironie et sérieux. Il y a l'idée que l'ironie, l'humour puisse être un vecteur presque de vulgarisation, mais que souvent dans ces émissions, il n'y a pas que de l'humour, de l'ironie. Il y a un invité sérieux qui va proposer des propos plus sérieux, et l'idée est d'arriver à un équilibre. Alors, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on crée cet itinéraire ? Est-ce qu'on prend le temps de créer cet itinéraire ? C'est tout l'enjeu.
J'ajouterais peut-être juste que, de même que dans tous les échanges linguistiques, il y a aussi tout ce qui s'est passé en amont, toutes les conditions qui font que l'échange va bien se passer ou pas. Et là, en l'occurrence, on pourrait dire que l'ironie déclenche un itinéraire, mais c'est d'autant plus facile que la relation s'est constituée avant ça, qu'il y a une forme de relation de confiance, etc. Et que justement, la parole ironique ne va pas être simplement prise comme une attaque ponctuelle, servant à faire rire ou servant à, dans un échange très bref et potentiellement antagonique. Et ça, c'est quelque chose que tous les gens qui ont fait de l'enseignement savent. C'est, enfin, une relation pédagogique, ça se construit aussi sur le long terme. Et peut-être que ce n'est pas une très bonne idée de commencer par l'ironie.
J'avais eu la chance, dans le cadre d'une espèce d'ironie pédagogique, de participer deux fois aux ateliers de désintoxication de langue de bois de Franck Lepage, où son spectacle Inculture est essentiellement basé sur l'ironie, mais pour nous faire progresser. J'avais trouvé justement que le temps qui passait, c'était 3 heures le lendemain du spectacle, pour nous faire travailler sur justement cette désintoxication de la langue de bois. Certains d'entre vous connaissent peut-être son sketch sur la langue de bois. Je vous le conseille, il est fantastique. Mais c'était devenu quasiment même pas pédagogique, c'était quasiment militant. Ensuite, cette mécanique-là était devenue militante. Alors, on l'a compris, l'ironie suppose de comprendre la référence. Et par nature, la référence n'est pas universelle. Ça dépend du corpus dans lequel on vit. Elle est souvent comprise que par sa communauté. C'est-à-dire que l'ironie est communautaire, voire communautariste.
Ah, l'ironie est communautaire, mais pour moi, ce n'est pas un gros mot. On se reproche souvent à l'ironie de jouer sur l'effet d'entre-soi, parce que, effectivement, certaines personnes ont la ref et ça va nécessiter d'avoir cette référence. Mais je pense qu'on a besoin, à des moments, de moments d'entre-soi, tant que ce n'est pas dans la lutte politique l'horizon de toute lutte politique. Quelquefois, hein, ça fait du bien, effectivement, d'avoir ce qu'on appelle des safe places, de ne pas avoir des paroles qui nous bousculent, de se sentir d'accord, de se sentir dans un collectif, surtout quand politiquement, on peut se sentir seul, on peut se sentir isolé, on peut se sentir minoritaire. Quelquefois, rire ensemble, avoir cet effet de communauté, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ça permet aussi de renouer avec la politique, parce que quand on se sent tout seul et dans un désarroi politique, on n'a plus envie quelquefois de se renseigner, même au-delà même du fait d'agir, de se renseigner. Et l'effet communautaire au sens collectif de l'ironie peut permettre ça. Donc oui, elle a un effet communautaire, mais c'est aussi sa grande force. Et d'un point de vue politique, on en parle dans le livre, la politique va beaucoup jouer sur des communautés, sur le « nous » contre le « eux ». Après, toute la question est de savoir comment on définit l'un et l'autre. Et l'ironie qui donne l'impression, alors ça peut être une illusion, mais avec un rire partagé, de valeurs partagées, de collectif, ben, peut aider à entretenir cette constitution de collectif politique. Et ça peut faire beaucoup de bien, ça peut donner beaucoup de force.
Bah, j'ajouterais peut-être juste, on l'a déjà un peu dit, mais en plus de la REF, il faut encore une fois avoir les valeurs au nom desquelles la REF va servir de mention critique ironique. Et c'est aussi, outre le fait d'être pour ou contre l'ironie de ce point de vue-là, c'est aussi, nous semble-t-il, tout simplement une des conditions de fonctionnement de l'ironie. C'est-à-dire que dans des contextes, comme on l'a dit, où la communauté n'existe pas vraiment, bah, l'ironie peut faire flop. On prend des exemples dans le livre, que ce soit le groupe Les Goguettes en trio, mais à quatre, qui se sont retrouvés à chanter devant des salles où, bah, manifestement, la mention critique de Marine Le Pen n'était pas considérée comme une mention critique. Ou alors de l'humoriste Bedos père, qui avait abandonné un sketch sur la parole raciste, parce que bah, les gens avaient la ref, ça c'était pas le problème, mais ils l'avaient tellement qu'ils voyaient pas la mention, ils voyaient pas le critique dans mention critique, et donc par conséquent,
c'est le féliciter hein,
pour ces paroles racistes. Donc c'est aussi tout simplement, au-delà même d'une question de jugement politique de ce qu'est l'ironie en tant que parole communautariste, c'est tout simplement une des conditions de fonctionnement de la parole ironique, c'est pur point de vue descriptif.
C'est intéressant quand on creuse un peu, parce que alors la première impression, c'est vraiment ce sentiment de communauté très fort et tous les intérêts que ça peut avoir. Mais quand on creuse, c'est un peu vertigineux, parce que ça donne donc une impression de collectif. Mais quand on réfléchit, on se demande, est-ce qu'on rit vraiment de la même chose? Au moment même où on se croit très unis, en riant de la même chose, est-ce qu'on rit vraiment de la même chose? Bon, a priori, déjà, on rit de la même cible, mais est-ce que c'est au nom de valeurs vraiment partagées? Et c'est très ambigu dès que c'est de l'ironie, dès qu'encore une fois, c'est de la mention critique. L'exemple type, c'est par exemple un humoriste qui fait un sketch où il mentionne les propos d'une personne raciste, par exemple, ou sexiste ou autre, de manière critique. De quoi on rit vraiment au moment où on rit ensemble? Est-ce qu'on rit du stéréotype? Est-ce qu'on rit de la critique du stéréotype? Est-ce qu'on rit un petit peu des deux? Est-ce que vous savez, quelquefois, il y a des rires en mode « Oh, il a osé dire ça !» Enfin, donc est-ce qu'on rit de la subversion, du geste de subversion? Donc déjà, les gens ne rient pas forcément de la même chose dans la salle. Et puis peut-être que nous-mêmes, à notre propre échelle aussi, on a plusieurs choses qui sont mêlées dans le rire. Et quelquefois, les humoristes eux-mêmes sont très critiques. Je discutais avec l'équipe de Jamil Le Chla, qui, dans son équipe, disait « Oui, ça, c'est des rires sales et c'est des rires un peu faciles de d'éveiller ces rires-là. » Et quelqu'un d'autre, Ramzi Assadi, qui est le rédac-chef de La Dernière, qui a l'œil critique aussi là-dessus, disait que c'était aussi un moyen, l'ironie, de recycler certaines vieilles blagues, parce que l'ironie devient un prétexte pour pouvoir les redire et quand même rejouer sur ces rires de plaisir, des stéréotypes, tout en disant qu'on les dénonce. Et de manière plus générale, c'est un peu une ambiguïté de l'ironie. À quel point est-ce que c'est efficace de répéter une parole pour la critiquer, même si la visée critique est très claire et qu'il n'y a pas de malentendu dessus? Parce que certes, c'est pour la critiquer, mais c'est aussi la répéter et la faire circuler. Et c'est encore une fois un pari. Est-ce que c'est la critique qui va l'emporter sur la répétition? Ou est-ce que le fait de la répéter, même si c'est pour la critiquer, ça ne va pas nous habituer à cette parole? Et de fait, pas de laisser de la place pour qu'il y en ait d'autres qui émergent. Ça, c'est vraiment une question linguistique. Et si je peux faire juste une toute petite parenthèse sur ce qu'on appelle, par exemple, le retournement du stigmate, sur le fait de répéter des paroles qui sont des insultes ou des paroles stigmatisantes, mais en essayant de retourner leur connotation, de se les réapproprier. Très récemment, il y a eu l'exemple de Brigitte Macron qui avait traité certaines féministes de sales connes, et on a vu fleurir des hashtags « je suis une sale conne » ou dans des manifs, des slogans « je suis une sale conne ». Donc il y a l'idée de retourner la parole de l'autre. Et toute la question, c'est à quel point ça va marcher? À quel point est-ce qu'on va réussir à supplanter cette parole en la retournant? Ou à quel point c'est la répéter et pas se définir autrement? Et ça, c'est une vraie question à la fois linguistique et politique de l'ironie.
Et peut-être juste pour ajouter encore quelque chose sur ce point, il y a même des cas où en réalité, non seulement on ne sait pas pourquoi on rit, mais on ne sait pas fondamentalement quel est le message qu'il y a derrière l'ironie. On prend l'exemple du chanteur Didier Super, qui a fait une chanson sur les transgenres. Honnêtement, on ne sait pas ce qui est dit dans cette chanson. On est incapable de...
C'est une chanson qui s'appelle « Y'a les chiantes ». Et oui, vraiment, je ne sais pas si lui-même sait...
Je ne suis pas sûr que Didier Super sache vraiment...
En tout cas, il ne nous dira pas.
Mais il est assez caractéristique de cette ironie qui est toujours un pas en retrait et qui, par conséquent, n'assume jamais la moindre parole, finalement. Alors, ça peut être très
drôle. Il assume quelquefois certaines paroles. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il s'autodéfinit sérieusement comme militant d'extrême-gauche, comme sympathisant d'extrême-gauche, pardon, et il va chanter à des manifs ou des moments de soutien pour la CGT et tout. Donc non, il y a quand même aussi des choix qui sont sérieux. Mais c'est vrai que, quelquefois, ça va jouer tout le temps sur cette ambiguïté. Et il n'y a pas forcément de décision explicite, même de l'humoriste dernière. Ça va être drôle, donc on va le faire, et c'est le drôle qui compte d'abord.
Et là, on a compris, enfin, vous l'avez même dit, c'est une des conditions de l'ironie de faire partie de la même communauté, d'avoir le même corpus de référence commun, et qu'en plus, on avait toujours une cible qui était le « eux » versus le « nous ». Et je me souviens, au début du portrait chinois, vous nous avez vanté le collectif, beaucoup quand même, quoi. Comment ça peut rapprocher, alors qu'en fait, on stigmatise et on éloigne. C'est pas un vecteur de rapprochement, c'est un vecteur de renforcement communautaire sans pour autant être capable de créer un lien, un pont, un dialogue, un échange qui soit constructif avec le « e ».
Toute la question de la communauté politique, c'est ça. C'est qu'à la fois, elle se définit contre une cible, contre un « e », parce que la politique, c'est aussi le conflit, et d'assumer d'être en conflit avec certaines personnes. Et en même temps, l'idée de la politique, c'est quand même d'agrandir le « nous » au maximum, donc de pouvoir quand même l'ouvrir au maximum, en tout cas de l'agrandir si on veut être plus fort, plus puissant, et donc être capable de discuter, sinon avec le « e », peut-être avec tous les intermédiaires entre le « nous » et le « e ». Et c'est toujours l'ambiguïté, d'ailleurs, ça va dépendre des moments dans la vie politique, par exemple des collectifs politiques, ça dépasse l'ironie, de soit plus jouer sur ce « nous » contre un « e », ou au contraire, à des moments, d'essayer d'élargir au maximum le « nous », donc d'être plus dans le conflit contre une cible, ou d'être plus effectivement dans le dialogue, dans l'ouverture.
Mais pour élargir un petit peu, je pense que ça témoigne aussi du fait que, enfin, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, un collectif, par définition, la parole qui règne en son sein ne peut pas être exclusivement une parole ironique. Ça, c'est aussi une des raisons du livre, c'était de considérer que la parole ironique a plein de vertus, elle a aussi de potentiels défauts, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la parole politique et qu'un collectif politique doit fonctionner aussi avec d'autres types de paroles, que ce soit à l'intérieur de lui-même, que ce soit dans l'adresse à d'autres personnes que lui, que ce soit même dans l'adresse aux potentiels adversaires, etc. Ça, je pense que ça fait partie de ce qu'on a voulu dire, qui est finalement assez simple, c'est que il faut pas projeter sur la parole ironique, pardon, trop d'attentes politiques, parce que elle n'a pas le monopole de ce qu'est une parole politique.
À un moment donné, justement, par rapport à cette communauté, aux gens qui sont dedans, aux gens qui sont dehors, vous soulignez quelque chose que, personnel, enfin, moi je l'ai vécu, peut-être que d'autres l'ont déjà vécu, c'est qu'en fait, on rentre dans une communauté si on est capable d'en comprendre l'ironie. Un groupe de potes, alors, ou un collectif politique, c'est pour moi la même chose, mais vous dites que c'est même un rite de passage performatif. En fait, je dis ça parce que moi, ça m'a parlé, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'il y a des groupes dans lesquels je n'ai jamais compris le corpus de ref. Et qui, en fait, faisait de l'ironie sur ça. Et à des moments, je me demandais si c'était contre moi, alors que j'essayais de venir. Et j'ai trouvé, justement, cette ironie très excluante, en fait. Et elle m'empêchait de rentrer. Alors, des fois, j'ai fini par faire semblant d'être capable de faire de l'ironie, ou des fois, pour de vrai, avoir le corpus de ref. Mais des fois, ça m'a exclu. Et je me suis dit, tiens, est-ce que l'ironie, du coup, n'est pas excluante aussi, comme un moyen d'empêcher des gens de rentrer dans un collectif, quoi.
Ah oui, oui, complètement. Et je pense que c'est une expérience que tout le monde a pu vivre. Vous savez, vous êtes dans un groupe, tout le monde rit, vous n'avez pas compris pourquoi les gens rient, vous riez quand même. Et vous priez pour qu'on ne vous demande pas pourquoi vous riez, est-ce que c'était la blague ? Parce que, voilà, on fait un petit peu semblant, on sent à quel point, à des moments, effectivement, rire peut être incluant et ne pas rire peut être excluant. Et c'est toute l'ambiguïté de l'ironie. À la fois, elle peut souder, avoir la même rêve, rire de la même chose contre la même cible. Ça peut beaucoup souder. Mais en même temps, on peut toujours avoir peur de ne pas avoir compris et qu'effectivement, elle se retourne contre nous. Est-ce que finalement, ce n'est pas nous le dindon de la farce ? Au moment où on croyait rire d'un autre, bam, ça va se retourner contre nous et c'est nous qui allons être exclus. Et ça, c'est aussi toujours l'ambiguïté de l'ironie qui peut toujours être esquive. On peut toujours faire de l'ironie sur de l'ironie au moment même où on croit avoir compris et se moquer du type, que ça se retourne contre nous. On cite une personne qui en parle, c'est Johanna Silva dans L'amour, la révolution. Johanna Silva qui était militante et journaliste au journal de gauche Fakir, qui avait été fondé par François Ruffin. Et elle parle de cette injonction à l'ironie, elle parle d'une ironie épuisante, de la peur de ne pas arriver à être à la hauteur et de l'injonction à faire comme ceux qu'elle appelle les petits mecs arrogants, enfin c'est elle, je cite, qui rivalisent d'ironie. Et ça peut être quelquefois effectivement pesant, cette injonction à l'ironie, quand vous voulez avoir une discussion sérieuse, quand on vous répond par une blague et que vous êtes renvoyé à la posture de la personne pas drôle ou chiante ou pénible ou qui casse l'ambiance en soirée parce que vous rivalisez pas d'ironie. Donc c'est oui, toute l'ambiguïté de l'ironie qui peut être un fort ciment de la communauté et qui en même temps... peut jouer sur ce risque d'exclusion même à l'intérieur de la communauté.
Et là, on voit, je pense, enfin, en termes très concrets, la dimension potentiellement problématique dans un contexte politique, puisque ça fait des collectifs, comme tu le disais, qui sont pas nécessairement ouverts. Et ou alors, s'il y a de l'ironie, il faut qu'il y ait quelqu'un pour expliciter à la personne, au petit nouveau ou à la petite nouvelle, pour faire de la communauté une communauté ouverte et pas simplement effectivement une communauté fermée sur elle-même, qui en plus est en compétition interne pour savoir qui fera la meilleure blague. De manière un peu, un peu compétitive.
En fait, de toute façon, si la communauté souffre pas du tout, elle va toujours finir par se retourner aussi contre ses membres. Et ça, c'est un classique, hein, des collectifs aussi politiques.
Vous intéressez, on l'a rapidement évoqué au début, sur les rapports de domination. L'ironie, c'est un truc de dominant ou de dominé ? C'est pour qui ?
J'aime bien comme il dit ça, alors qu'il sait très bien que la réponse, ça va être c'est compliqué. Il fait semblant que la question est simple, parce qu'il a lu le livre. Oui, alors en fait, ce qui nous a frappé, c'est que dans les discours sur l'ironie, on entend les deux. On entend à la fois dire que l'ironie serait un discours de dominant, un discours de lettré, un discours de classe sociale supérieure, un discours d'homme aussi, quelquefois, parce qu'elle exigerait une certaine maîtrise du langage et des références. Et quelquefois, on entend au contraire l'inverse, que ce serait une arme de dominer parce qu'elle permet d'éviter le conflit direct, la confrontation directe. Et elle a pu être liée à l'inverse à l'écriture féminine avec une métaphore, la marche du cavalier, le cavalier aux échecs qui ne va pas tout droit, mais qui passe un peu sur le côté. Donc, il y a des projections très différentes dessus. Et nous, on a voulu sortir un peu de ces projections et d'étudier un peu la critique psycholinguistique, sociolinguistique sur ce point, parce qu'il y a un peu des fantasmes sur qui pourrait faire de l'ironie. Je pense notamment à Annie Ernaux qui, pour des raisons qui se comprennent vu le champ littéraire de l'époque où la figure de l'écrivain, c'est l'écrivain très ironique, va complètement rejeter l'ironie. Annie Ernaux va complètement rejeter l'ironie en l'associant aux classes dominantes et en disant que les classes populaires ne font pas de l'ironie mais ont de la gaieté. Et elle reprend un peu l'opposition éthique, l'ironie méchant et l'humour qui serait bien. Mais en réalité, c'est assez misérabiliste. Bien sûr que les classes populaires peuvent aussi faire de l'ironie. Et elle confond un peu l'ironie lettrée du milieu de son mari et l'ironie en général. En fait, les études psycholinguistiques montrent qu'on comprend l'ironie dès l'âge de 7-8 ans. Il y a des études qui ont été faites en comparant les lycées, les établissements REP, non-REP. Après, toute la question, c'est quel type d'ironie va être valorisé dans quel contexte social, et pas juste qui comprend l'ironie, mais qui va trouver de l'intérêt à en faire publiquement. Et ce qu'on pense, pour reparler des histoires de distance dont on a parlé, c'est que pour se permettre de faire de l'ironie socialement dans des contextes de lutte de pouvoir, il faut avoir un certain capital et une certaine distance. C'est-à-dire, il ne faut pas être écrasé par la violence. Par exemple, pour répondre rapidement à une insulte, si on est trop touché par l'insulte, si on subit trop l'insulte, on n'aura peut-être pas la distance pour faire de l'ironie dessus. On va justement subir la violence. Donc, il faut être à la fois pas avoir une certaine distance, pas être trop menacé directement, et en même temps, pas avoir trop de distance non plus, parce que sinon, on s'en fiche, tout simplement. Ça ne nous concerne pas du tout, ça ne nous atteint pas du tout. Donc très souvent, l'ironie, ça peut être des situations de capital contre capital. Par exemple, des gens qui vont avoir plus de capital culturel contre des gens qui auront plus de capital économique. Ça, c'est un classique. Des gens qui vont avoir du bagage scolaire, des références culturelles, qui vont se moquer de gens qui vont avoir du capital économique et qui vont faire un peu jouer l'un contre l'autre. Donc au lieu que ce soit dominant-dominé, quelquefois, c'est un peu type de ressources contre type de ressources.
Et ce capital, c'est le coussin protecteur qui donne la bonne distance ? Ou qui permet d'avoir la distance ?
Qui donne des ressources.
Protégé par cette couche de protection, qu'elle soit culturelle.
Ça va permettre de mettre en avant ses ressources et le fait qu'on n'ait pas zéro ressource. Je pense par exemple à toute l'ironie qu'il y a pu avoir contre Nicolas Sarkozy, par exemple, voilà, qui est tout à fait un dominant à plein de points de vue, politiquement, économiquement. Mais par exemple, se moquer de son manque de capital culturel, faire de l'ironie dessus, ça pourrait être une manière justement de ne pas être complètement écrasé et de mettre en valeur ses ressources. Et pour donner un exemple précis, qu'on emprunte à un sociologue qui s'appelle Élie Guéraud, qui a étudié ce qu'il appelle le déclin de la petite bourgeoisie intellectuelle, culturelle. Donc, par exemple, tous les métiers autour de la culture, mais des métiers menacés, notamment par le manque de subventions publiques. En fait, il va étudier des mêmes personnes et on voit que l'ironie, suivant les situations, peut être retournée aussi bien contre des dominants que contre des dominés. Il y a par exemple une dame dont la galerie risque d'être fermée, donc elle risque de perdre sa galerie d'art au profit de jeunes qui sont plutôt de la jeunesse économique montante. Et elle va se moquer de son manque de référence culturelle. C'est un peu dur de dire qui est dominant-dominé. À la fois, elle va se moquer d'un capital culturel que l'autre n'a pas, et en même temps, l'autre a une domination économique par rapport à elle. Donc là, les rapports sont un peu plus compliqués. À des moments, elle va essayer de retourner cette ironie contre le maire, les dirigeants qui vont fermer son local, donc là, contre des dominants. Et en même temps, sans doute pour se distinguer, pour se raffermir, elle va se moquer de ce qu'elle appelle les cassos et leur orthographe, donc contre des dominés. Donc c'est pas stable, c'est pas unique. Ça va dépendre des ressources de certains. Et quelquefois, ben voilà, pour là, cette dame qui a un capital culturel, elle va vouloir le mettre en avant et utiliser l'ironie pour ça. Et elle peut aussi bien le faire contre des dominants pour s'en défendre que contre des dominés pour s'en distinguer. C'est toute l'ambiguïté, par exemple, ben on est prof, on peut le dire, de se moquer, par exemple, des fautes d'orthographe. Quand on se moque des fautes d'orthographe des gens, est-ce que c'est pour défendre un capital et des valeurs auxquelles on croit, ou est-ce que c'est pour se distinguer parce qu'on de gens qu'on considère comme inférieurs socialement? Mais est-ce qu'on a besoin de cette distinction parce qu'on sent que nos ressources sont menacées par d'autres gens plus haut? Ça peut être compliqué, justement, ces rapports de pouvoir et de distance.
Et après, peut-être pour juste pointer le pourquoi est-ce que c'est compliqué, ambigu, etc., c'est parce que très souvent, quand même, on fait de l'ironie sur une parole qu'on considère comme socialement dominante. Et dominante, en quel sens? Est-ce que c'est particulièrement répandu? Est-ce que c'est la parole des dominants? Est-ce que c'est une parole qui menace quelque chose qu'on considère comme normal et qui, par conséquent, va être moquée? Donc je pense que l'ambiguïté, elle est aussi là-dessus, sur voilà, contre quoi est-ce qu'on va faire de l'ironie? Qu'est-ce qu'on considère comme la parole dominante? Et cela, ça dépendra de tout un tas de choses. Et on peut très bien se tromper en considérant que c'est dominant alors que ça ne l'est pas, ou que c'est dominant dans certains domaines et pas dans d'autres, etc.
Mais souvent, ça va être contre ce qui est considéré comme une menace. Et il y a plusieurs manières, encore une fois, de réagir à la menace. Enfin, oui.
Oui, mais par exemple, sur l'orthographe, il y a l'idée de menace et il y a en même temps l'idée qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus écrire. Sous-entendu, la parole dominante, c'est la parole.
Oui, mais justement. Oui, mais tout à fait. Mais encore une fois, quand on a l'impression qu'une menace, c'est que, par exemple, nos ressources sont menacées, il y a plusieurs manières de réagir à ça et de retourner ça. Et ça peut être, encore une fois, contre des dominants contre lesquels on veut résister, ou contre des dominés pour s'en distinguer, pour avoir l'impression de sauver ce qui est notre place, notre situation.
Le temps qui file. Du coup, j'avance un peu. Et en fait, je voulais vous poser la question absolument, parce qu'il y a deux mots que j'attendais spontanément. Je me disais, dans le lexique, je vais tomber dessus. Ils arrivent très tard. C'est satire et cynisme. Ils arrivent quasiment à la fin du livre. Et je me suis dit, alors, pourquoi je les attendais si tôt? Pourquoi ils n'y sont pas? En quoi c'est de l'ironie ou c'est pas de l'ironie? Et en quoi c'est différent du concept d'ironie qu'on a manipulé globalement depuis le début comme un concept homogène, alors que pour moi, satire et cynisme pouvaient faire partie du registre de l'ironie?
C'est une question définitionnelle. La satire nous a paru être, je pense qu'on peut le dire, une forme d'ironie, mais très souvent dans la satire, il y a une forme d'exagération qui fait que la mention critique n'est pas une simple mention, mais une mention exagérée, ce qui est une forme d'ironie entre guillemets impure par rapport à la pure mention critique, où peut se poser l'ambiguïté de qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Dans la satire, la plupart du temps, on comprend globalement les ressorts de la critique. Et sur le cynisme, peut-être on en reparlera, mais le cynisme nous a paru être un risque inhérent à l'ironie, qui est le risque de considérer que n'importe quelle parole peut, voire doit, surtout faire l'objet d'un recul ironique, ce qui consiste à ne plus prendre au sérieux aucune parole et installe, pour le coup, un état d'esprit qui est un état d'esprit de la dérision absolue et du pas en arrière continu. C'est-à-dire le cynique étant celui qui est toujours en arrière par rapport à ce qui est dit, puisque rien n'a d'importance, c'est que finalement, toutes les paroles ne valent que comme des cibles potentielles d'une ironie qui devient totale.
Oui, la satire, ça me semble que c'est un dispositif énonciatif qui est plus large que la simple ironie. La satire, c'est quand il y a la position de quelqu'un qui va juger des traits de société ou des traits de caractère et qui a souvent une position un peu en haut d'observateur et qui va critiquer certains traits, les représenter de manière satirique, souvent exagérée, pour les critiquer dans une optique réformatrice, souvent, enfin, pour dire qu'il faut se corriger, c'est sous-entendu, il faut corriger ça. Et l'ironie peut être un des moyens de la satire. Et dans ces cas-là, c'est quand on vise un défaut et que l'ironie, le but est assez explicite sur ce qui est visé, sur ce qui est critiqué. Le cynisme, effectivement, ça nous semble être un des dangers de l'ironie avec le ludisme. Le ludisme, c'est de prendre toutes les paroles comme jeu. Le cynisme, c'est de voir toutes les paroles comme insignifiantes. Et je pense que c'est une tentation qu'on peut toutes et tous avoir, surtout dans le domaine politique. On est dans un moment où c'est dur de croire dans des avenirs politiques, voire dans un avenir politique tout court. Et donc, on peut se réfugier dans la dérision, dans une forme de cynisme. Vous savez, un peu, c'est il vaut mieux en pleurer que, enfin, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, justement. Avec l'idée que tout peut paraître effectivement insignifiant. Et dans ces cas-là, on peut avoir une posture de détachement cynique qui nous guette. Et autant je le comprends, je pense que c'est une tentation qui peut être partagée, autant ça veut dire vraiment renoncer à la politique et renoncer à l'inscription dans le monde social. Et finalement, qui peut se permettre d'avoir cette posture détachée du monde? Pour moi, un exemple de ça, c'est Frédéric Becbédé. Par exemple, il commence avec une ironie satirique contre la publicité dans 99 francs, dans ce genre de choses. Donc ça vise quand même quelque chose de précis. Et puis ça se termine par une posture de dandy aristocratique contemporain qui va tout prendre à la dérision tout le temps. Et typiquement, bah, par exemple, ça tourne à quoi? À la publicité. C'est posé pour les Galeries Lafayette avec dans ses mains le livre La société de consommation de Baudrillard. Donc avoir deux symboles de la lutte anti-pub, lui-même pour 99 francs, et Baudrillard qui sont détournés au profit de la pub. Bah, ça, c'est l'aboutissement de la parole cynique. C'est peut-être quand, voilà, quand les slogans politiques, quand les valeurs politiques deviennent de la publicité.
Et peut-être juste, enfin, et l'idée quand même qu'il y avait dans le livre, alors c'est un espèce de pari ou un postulat, mais c'est quand même que l'idée que, enfin, il y a des paroles qui nous semblent avoir une valeur intrinsèque dans le domaine politique, scientifique, artistique. Tout se réduit pas à, oui, à un jeu de sons un peu insignifiants qui serait simplement prétexte à la moquerie.
Alors, on arrive bientôt au terme de cet échange, et avant de passer les questions de la salle, j'ai une dernière question, c'est avec le contrôle éditorial de plus en plus de médias ou de maisons d'édition, hein, doit-on s'inquiéter du sort de l'ironie dans l'espace médiatique ?
De manière générale, oui, je pense qu'on peut s'inquiéter de la pluralité de la liberté d'expression, et l'ironie, bien sûr, en fait partie. Bah, je ne peux pas dire l'inverse. Moi, j'étais à France Inter où Guillaume Meurice s'est fait virer, et je suis partie quand il a été viré, donc je ne vais pas dire si, je trouve que tout va bien. Et donc, de fait, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir. Et même là, actuellement, bah, le fait que Nova ait un grand succès, comme vous l'avez dit, et forcément, je m'en réjouis, je fais partie de l'équipe, mais tout tient à la volonté d'un seul homme, Mathieu Pigas, qui est par ailleurs un banquier d'affaires. Et de fait, vraiment, tout tient au fait que lui, il ait décidé de lancer cette émission-là. Mais s'il décide que non, elle n'existera plus. Et c'est problématique que cette émission, qui est vue par beaucoup comme un espace de liberté d'expression, de parole politique, humoristique, de gauche important, tout tienne à une simple volonté individuelle.
Mais là encore, je pense qu'il ne faut pas confondre ironie de gauche et ironie en général, parce que l'ironie ne me semble pas menacée. Enfin, si les films à l'arrache de Bolloré, de l'ironie, il y en aura. Ce ne sera juste pas les mêmes cibles, ce sera sur des secteurs de niche. L'émission, c'est quoi? C'est Quotidien, qui est un grand moment d'ironie, mais d'ironie qui n'a pas de valeur politique particulière, quoi. Donc je ne suis pas sûr que l'ironie en tant que telle soit menacée. Ce qui risque de se produire, c'est d'avoir un espace public qui soit de plus en plus fragmenté, avec quand même une tendance très à droite, avec du coup des formes d'ironie qui viseront principalement le progressisme, le wokisme, appelons ça comme on veut, et des ironies de niche qui iront se loger sur des médias de niche. Mais là encore, je pense pas qu'il faille raisonner en termes de est-ce que l'ironie est menacée. C'est juste, ce sera pas la même ironie, et on peut le déplorer, mais si on le déplore, c'est pour des raisons politiques et qui sont pas des raisons esthétiques d'attachement à l'ironie en général, me semble-t-il.
Léa Véron, Guillaume Fondu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous vos réflexions sur un sujet
passionnant et très riche et très contemporain. Je rappelle le titre de votre ouvrage « T'es sérieuse ?» aux éditions de La Découverte, que vous pourrez retrouver au fond de la salle lors de la séance de dédicace à suivre à la librairie Mola ou sur mola.com. Merci à vous deux.
Merci.